Salut tout le monde, c'est Richard. On est vendredi, il est 18h, on écoute Phoenix et on va se tenir au courant des dernières infos, des dernières actus et des derniers résultats tennis, car c'est l'heure de pleine balle. Les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses sont actuellement aux US, et plus précisément à Miami. Ça va faire l'objet d'une longue page de notre émission. Il se passe pas mal de choses en Floride, et nos Frenchies sont plutôt en forme, vous allez voir. Et puis on va s'intéresser à ces destins de tennismen, de tenniswomen, qui ont connu des moments de gloire dans leur carrière, mais plutôt éphémères. Ils sont quelques-uns, on vous donnera des exemples dans quelques minutes. Et puis dans notre page Normandie, on ira du côté de Saint-Lô, où s'est terminé le fameux CNGT, et on prendra aussi la température à Rouen, à quelques jours du tournoi WTA 250. Un menu entrée plat dessert, pleine balle, c'est parti.
Silence, silver play.
On a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise.
Et là, j'étais vraiment sur un nuage pendant 3 jours.
Et l'équipe de pleine balle est bien là. Enfin, pas toute l'équipe. Hein. Il en manque une. Un seul être vous manque et c'est
tout
quoi déjà la suite?
Tout qui est dans le peuple.
Tout qui est dans le peuple. Tout qui est dans le peuple. Exactement. Bref, Marine n'est pas avec nous. Bon, ça va. J'ai un mot du médecin, j'ai un mot des parents, j'ai un mot de la RATP. On est dans les clous.
Elle est dispensée, c'est bon.
Tout ça pour éviter l'heure de colle, Marine. Bon, désolé.
Le mot de la RATP.
je vais quand même lui mettre un petit quelque chose dans le carnet de liaison.
Tu as tout à fait raison.
En 2026, tout le monde se protège de tout.
Tu as bien raison.
Moi, je veux pas avoir de problème avec les proches de Marine. Je veux pas mettre Phoenix dans la panade.
C'est bien.
Il en est hors de question. Heureusement, les deux trublions historiques qui m'entourent depuis déjà presque 10 ans sont bien là. Enzo et Simon, salut les gars.
Salut mon Richie.
Salut Richie.
Ça va?
Bah oui,
bah, écoute la forme.
Hein. Le temps passe vite.
Hein. Mais oui, déjà 10 ans.
Déjà 10 ans.
Bah, on va fêter la 10e année. Ouais.
C'est vrai. Mmh. Ouais. Et puisque... aucun de nous trois était encore enceinte pour l'instant.
Non, c'est vrai. C'est impeccable, c'est vrai.
C'est pas demain la veille non plus, visiblement. Non.
Aucun de nous trois était en prison non plus.
Pas encore, c'est vrai. Pas encore.
Touchons du bois.
Allez, c'est parti, direction les States. Est-ce qu'on va parler de Donald Trump?
Non.
Est-ce qu'on va parler de la NHL?
Non.
Est-ce qu'on va parler MLS avec la signature d'Antoine Griezmann à Orlando?
Eh, pourquoi pas?
Ah,
eh oui, c'est vrai ça.
On pourrait.
C'est vrai ça.
On pourrait.
Mais non, pas tout de suite.
Bon. Pas encore.
Désolé. Bientôt, ça viendra, je
bientôt,
pense.
Bientôt.
Non, les gars, on va surtout parler du tournoi de Miami.
Miami.
Le tournoi d'Indian Wells, situé dans la ville de.
Indian Wells.
À peine terminé, qu'on enchaîne avec un autre Masters 1000, donc à.
Miami.
Ça suit, j'adore cette biographie.
M-I-A-M-I.
C'est ça.
Motus.
Et alors, comment il s'est fini, au fait, ce tournoi d'Indian Wells? C'est à notre dernière émission, on est resté sur un suspense haletant. Eh bien oui, Medvedev a battu Alcaraz demi-finale. Jolie surprise, ça, hein, que quelques-uns avaient senti dans les pronos.
J'en suis pas peu fier.
J'ai l'impression. Bon, on le dit parce que c'est tellement rare qu'on est un peu de nez, donc on le souligne.
On en profite.
Et en finale, Daniil Medvedev a donc fait face à Yannick Sinner. Et là, pas de nouvel exploit pour le Russe. C'est bien le natif de San Candido, petite commune de 3500 habitants au cœur des Dolomites, au pied du Monte Elmo, qui culmine à 2433 mètres.
T'avais du temps à perdre tout aujourd'hui.
Accès direct au domaine skiable des Dreizinen Dolomites, Monte Elmo, Stiergarten, Claude Arossa, Passo Monte Croce, plus de 86 km de piste, essentiellement des descentes larges, de difficultés moyennes, à travers des clairières forestières. Comptez 80€ la journée pour un forfait complet, 56€ pour les étudiants et 40€ pour les enfants. Qui s'est imposé, victoire accrochée. Alors, si 7-6.
Si je peux me permettre.
Premier titre de la saison pour Sinner.
Oui. La piste bleue des Vercluses est fermée. Voilà.
Oui, mais l'écureuil en piste rouge permet de rallier aussi.
Oui, alors piste rouge, attention, il y a des bosses, c'est pas pour tout le monde non plus.
Ouais, j'ai une question, moi. Le Genépi, il est offert en bas ou pas?
Le Genépi est bien sûr. Bah, c'est la grappa.
La grappa. C'est plus la grappa de l'autre côté.
80 euros la journée.
Ouais, 80 euros la journée.
Mais vu comment t'es parti, on peut parler de Griezmann un petit
c'est
peu.
Quand même... c'est quand même le bled de Sinner. Ça m'étonne que tu racles là-bas.
Oui, c'est vrai.
Franchement, c'est quand même le but de l'opération. Hein. Donc, premier titre pour Sinner et Medvedev qui a pas démérité en finale.
Il a pas de domaine de ski, lui.
Ce sera pour la semaine prochaine.
D'accord.
Je préfère faire de la pub pour l'Italie en ce moment.
Oui, c'est pas faux, oui. Oui, effectivement. Oui, dit comme ça.
Bon, personne ne peut parler de Medvedev.
Quand bah même. Si, non, franchement, incroyable. Incroyable, Medvedev quand même.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout sa superbe victoire contre Alcaraz. Moi, c'est là où il m'a le plus impressionné. On a retrouvé le Medvedev qui était numéro 1 mondial.
Mais tu n'as pas du tout été surpris, Simon.
Bah si, quand même. Non mais
tu l'avais pronostiqué.
Je l'avais pronostiqué parce que je le sentais dans le tournoi. Il tapait super bien la balle. Il jouait juste et tout rentrait. Donc je me suis dit bah s'il y a bien un moment où il peut battre Alcaraz, ce serait aujourd'hui, tu vois. Et il l'a battu.
Il l'a fait.
Et ce qui est fou, c'est que Alcaraz, tu sais, il joue toujours en contre. T'as l'impression que tu l'attaques, tu l'as débordé. En fait, il te remet une patate et tu perds le point là-dessus. Et ben Medvedev ultra rapide, il était dessus tout le temps.
C'est beau.
C'était beau. Non, c'était vraiment incroyable comme match.
Ouais, gros match de Medvedev. Moi, pour le coup, assez surpris quand même. J'étais plus un peu mitigé. J'avais pas annoncé vainqueur, mais je sentais bien un match. Je crois que Richard, toi aussi, tu le sentais
ouais,
un peu
ouais,
accroché
bien,
ce match.
Ouais, je le sentais bien.
Mais de là, le voir gagner avec cette manière-là en 2-7, c'est surtout ça qui est impressionnant.
Ça me rappelle, j'ai pas dit Sinner vainqueur en battant Medvedev en finale.
Je crois que si. Hein.
Oh là là,
je crois que t'as
ça
fait
ne me revient que maintenant.
Il me semble que. Ouais.
Ah, je suis sur un tout pile là.
Ouais, c'est un tout pile.
C'est beau.
Tout pile, Emile.
Non, mais c'est vrai que
on lui a pas dit bonjour.
Salut Emile.
Hey. Coucou Emile.
Voilà notre DJ national.
Ouais, bon, reprenons la discussion.
Oui, voilà. Chez les femmes, oui. À Indian Wells, eh bien, c'est la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, qui l'emporte après une finale contre Rybakina.
Et ça aussi, Simon l'avait annoncé.
Simon l'avait annoncé.
Non. Puisque personne n'avait dit Sabalenka, tu avais terminé en disant, du coup, parier Sabalenka, évidemment, elle a gagné.
Voilà.
Donc tu l'avais dit. Oui, enfin là, c'était pas du pronostic.
C'était de la logique pure. C'était autre chose. En tout cas, voilà, ça fait 3-6, 6-3, 7-6 pour la Biélorusse, pour Sabalenka. Donc bon, des pronos pas si mauvais quand même. Hein.
On n'était pas si loin de la vérité.
Et puis je pense aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui vont faire des lotos sportifs. Ça existe encore, l'auto sportif? En tout cas, qui vont s'en mettre
clic. Fini.
Qui vont s'en mettre clic. Laquelle? Parce que là,
oui,
c'est des sujets un peu touchy.
Attention.
On a dit qu'on parlait pas de Donald Trump. Hein.
On est en direct ou pas là? C'est fou. Peut-être la couper.
Donc voilà, non, mais on a été sympa pour nos auditeurs, auditrices qui ont certainement misé sur Sabalenka.
Sur Sabalenka.
Grâce à toi, grâce à nous.
Voilà.
C'est vrai ça. Allez, on en vient à Miami. Les meilleurs joueurs étaient tous sur la ligne de départ. Tous, non. Djoko, le croco, a renoncé. Lorenzo Musetti, absent également. Ce sont les deux membres du top 10 qui ne sont pas alignés. Et très vite, ce sont les têtes de série qui sont pris les pieds dans le tapis.
Oui.
À Miami. Medvedev, on vient d'en parler, finaliste à Indian Wells. Bah, il s'est fait sortir au troisième tour par l'argentin Cerundolo, 3-7.
Ouais.
Un peu surpris parce que quand même le gros niveau qu'il a montré la semaine passée, bah là on l'a pas retrouvé. Hein.
Ouais, et puis un match vraiment très très bizarre.
Décousu.
Ah bah clairement décousu en deux faces parce qu'il y a clairement le score final est de...
Il perd le 3-7, 6-0.
Ouais, il y a 6-0, 4-6, ouais. 7-5 et il y a un moment dans le match il y a quand même 6-0, 2-0, 45 pour Cerundolo. Enfin c'est vraiment une déroute complète. Finalement ça s'est un peu équilibré, finalement c'est quand même Cerundolo qui prend le dessus, mais c'est vrai que ouais, match assez bizarre et tournoi assez ouvert.
Mais c'était hyper étonnant de voir le niveau de jeu proposé par Medvedev contre Alcaraz. Et là, le 6-0 qui prend contre Cerundolo, il foutait tout dehors. Il n'était pas dessus sur aucune balle. Il attaquait. Tout était faux.
Et déjà, sur le match précédent contre Sakamoto,
tout à fait.
Jeune japonais de 19 ans, voilà, je m'étais délecté de ce match. Ça avait été un peu compliqué. Pareil, il avait perdu lourdement le premier. Et il avait un peu cravaché pour gagner en 3-7. Hein. Donc, d'ailleurs, il est à suivre, ce Sakamoto-là. 19 ans, japonais. Ça joue bien. Ouais, ça joue bien.
J'avoue, j'ai pas regardé ce match, mais effectivement,
donc,
c'était difficile.
Medvedev, on sentait que ça partait difficilement, et bon voilà, il a lâché dès le troisième tour. Bon.
C'est ça.
Est-ce que ce serait de la fatigue?
Ah, je sais pas, il joue tous les deux jours quand même. Hein.
Mm-hmm.
C'est vrai.
Après, il y a eu un peu la pluie aussi au début de Miami.
Il y a eu un peu la pluie, puis c'est vrai que les conditions sont quand même assez changeantes.
Mais c'est valable pour les deux joueurs.
C'est valable pour les deux joueurs, effectivement.
Rappelons-le. Bublik battu en 2-7, lui, par Berrettini, l'épouvantail du tableau, l'ancien top 10, qui peut encore faire très très mal, on le sait. Rappelle régulièrement.
Sur un match où il est toujours dangereux.
Voilà. Toujours donc, dangereux.
Mais il ne fait pas mal au Monégasque. Battu par Vacherot, le Berrettini.
Ouais, c'est vrai. Joli. T'as suivi sans regarder ton tableau en plus. Hein.
Non.
Pas mal. pas mal. On peut parler aussi de Dominor. Bon, ça va lui faire plaisir à Enzo, ça. Il y a Marine. On embrasse Marine. Terrible. Dominor sorti en 2-7 secs par Stefanos Tsitsipas.
Ouais, assez incompréhensible. Pour le coup, ce match-là, assez incompréhensible. Non, je suis un peu sévère. Tsitsipas fait un bon match. Demi-heure fait vraiment un match mauvais, faut le dire. Mais Tsitsipas est plutôt sérieux. Ce qui est incompréhensible, par contre, c'est son match d'après contre Arthur Fils, où il perd 6-0, 6-1. En se faisant démembrer, quoi. Il y a pas
50 minutes de match.
50 minutes, et c'est vraiment le 6-0, 6-1.
C'est
le
pire match de sa carrière.
Pire match de sa carrière, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai dit, vous remarquerez, mais. Non, c'est deux opposés complètement en deux matchs.
Ouais, en deux matchs, en deux jours, en 48 heures.
Incompréhensible.
Ouais. C'était affligeant ce match-là. Non, mais vraiment. Pareil, il mettait tout dehors.
Bah, Fils a bien joué, ça c'est sûr.
Oui, il est solide, il tient son rang en tête de série. Bon, c'est pas non plus un match.
Il n'y a pas grand monde en face, quoi.
C'est ça, c'est des Tsitsipas, là.
Voilà, un public, deux mineurs. On peut parler aussi de Jakub Mencik, quand même, tenant du titre à Miami.
Pareil, à la trappe.
À la trappe, dès le troisième tour, face à Frances Tiafoe. 7-6 au troisième.
Match serré, il y a beaucoup de matchs qui se jouent sur les tie-breaks, etc.
Il a sauvé...
On a bien fait d'inventer le tie-break, d'ailleurs.
C'est pas mal.
Ça me fait penser.
Faudrait revenir cette invention-là.
C'est toi qui l'as inventé, non?
En 1968.
Ouais, c'est ça. C'est bien ce qu'il semblait.
En sortie de guerre.
Alors laquelle?
Après un loto-foot.
C'est toujours la même question.
Ouais, c'est ça.
Après, pas de bol, Mencik, je crois, il sauve 2 balles de match, il a 4 balles de match pour lui, qui met pas. Et derrière, il le paye cash. Et
là, il finit pas. Voilà, il
aurait dû
prendre qu'à lui-même.
Ma chronique sur le mental.
Exactement.
Là,
exactement.
Simon avait été clair, bordel. Et puis, on peut parler quand même d'un certain Carlos Alcaraz.
Eh ben oui.
On a failli l'oublier. Troisième tour, défaite contre Sébastien Corda. Alors, il s'est fait plier pendant un set trois quarts. Ouais. Il a relevé la tête timidement pendant 20 minutes pour arracher un troisième set. Et puis ensuite, c'était encore beaucoup trop irrégulier pour espérer l'emporter. Moi, perso, j'ai vu ce match, en tout cas une partie du match. Et j'ai regardé à partir de la fin du premier. J'étais persuadé qu'il était blessé. Alcaraz.
On en discutait.
Et vu qu'en fait, j'ai regardé ça sur Eurosport pour pas les citer et il n'y avait pas les commentaires, à ce moment-là, j'avais juste je me suis dit, j'ai dû rater un truc. Le mec, il a mal quelque part, il est pas bien, il est en train de perdre comme rarement on le voit. L'autre, il jouait vachement bien, hein, Sébastien Corda, nickel. Et puis en fin de compte, au fur et à mesure du match, je le voyais pas trop non plus refaire appel à un kiné ou quoi que ce soit. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, non, il était pas blessé, mais. Match vraiment très étrange.
Ouais, très très étrange.
Il jouait à deux à l'heure, il allait pas sur toutes les balles, lui qui avait une défense héroïque. Là, on l'a pas vu du tout, sa défense héroïque.
Et puis, on a vu des vidéos où il parle à son clan, où il dit qu'il en a marre, qu'il veut plus
en
jouer.
En espagnol, ça donnait quoi?
No
puedo más.
No puedo más.
No puedo más.
No puedo más.
Wanna go back to the casa. C'est un truc comme ça.
Ah oui. Il en avait marre.
Il en avait marre.
C'est fidèle.
Il y a plein de Roger Federer, il squeezait un petit peu ce tournoi de Miami. Nadal aussi le faisait, Djokovic aussi le faisait. Donc peut-être que c'est l'enchaînement Indian Wells Miami. Quand tu fais un gros tournoi Indian Wells, peut-être t'en as marre de faire Miami après.
Je ne sais pas, je peux pas témoigner moi de ça perso parce que j'ai jamais fait l'enchaînement, mais.
Non, mais c'est vrai qu'il a, en tout cas, Alcaraz, il a jamais été très bon à Miami, ça c'est.
Depuis il y a une grosse année, je crois, où il le gagne, c'est pas en 2021, 2022, il gagne, et depuis, c'est vrai que Miami, c'est pas un tournoi qui lui réussit. Et je partage, j'ai vu une bonne partie du match, à peu près la même période. J'ai senti plutôt Alcaraz pas concerné pour le coup, vraiment. J'ai l'impression qu'il s'en foutait, moi.
Ouais, plus qu'autre chose. Physiquement, je sais pas si c'était un mauvais jour ou quoi.
Moi, j'avoue, j'ai pas eu forcément cette impression de blessure, peut-être. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il s'en foutait, que ça le faisait chier d'être là plus qu'autre chose. Assez surprenant comme match. Après, on parlait de fatigue, peut-être ça.
Quand il est remonté, du coup, Corda servait pour le match, je crois, 5-4 dans le deuxième.
Ouais.
Il débreak, il remporte le deuxième set. Là, tu te dis, c'est bon. C'est parti. Pas du tout. Alors, Indian Wells, rappelons-le, épaté par le niveau de match, le niveau de jeu de ses adversaires. Il avait déclaré, j'ai l'impression de jouer Federer à chaque match. Là, il a remis une pièce dans la machine après sa défaite contre Corda, dans le même sens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est vraiment mauvais perdant ou est-ce qu'il y a un peu de ça quand même?
Ça reste gentil. Être comparé à Roger Federer, ça fait toujours plaisir.
Oui.
mais en vrai, c'est vrai qu'il peut avoir cette impression-là. Mais même contre Corda, tu vois, Corda, après ce match contre Alcaraz, il va perdre contre Landaluce. C'est vrai qu'il peut avoir cette impression-là de jouer contre des adversaires qui sont super forts et après tu regardes leur match et les gars, ils perdent un peu contre, pas des inconnus, mais des personnes qui sont moins bien classées, en jouant peut-être moins bien. Et puis il y a aussi, ça il peut pas lutter contre, mais forcément quand on joue contre Alcaraz, on joue relâché. on lâche ses coups et tout, et on se dit on est obligé de lâcher tous ses coups, on est obligé de se donner à 200%, sinon on va perdre.
Bah,
donc
oui.
Il est voué à jouer contre des gars comme ça.
On joue sans pression, vu qu'on sait qu'en toute logique, on ne gagnera pas.
Mais il a une pancarte dans le dos, clairement. Hein. C'est la cible du numéro 1 mondial, voilà, de ces grands joueurs. C'est sûr que forcément, le relâchement, il est inné, voire quasiment. Quoi. C'est vrai que c'est plus facile de se dire, bon, bah, quitte à y aller, autant que j'y aille, et puis on verra ce qui se passe. De toute façon, c'est numéro 1 mondial. Si je perds, ce ne sera pas infamant du tout.
Mais c'est pas le seul. C'est-à-dire, c'était pareil pour Federer, c'était pareil pour Nadal.
Oui, voilà, c'est ça.
Ça peut être pareil pour Djoko encore aujourd'hui.
Un peu mauvais perdant, moi, je trouve. Quand même.
Ouais, moi, je trouve ça un peu mauvais perdant.
Oh, pas mauvais perdant, je sais pas.
En fait, je vois pas l'intérêt de la déclaration. Que pourquoi, genre, qu'est-ce que tu veux. Genre, t'es pas différent des autres, comme tu l'as dit, c'était pareil pour les anciens.
Ouais, mais c'est peut-être aussi pour le souligner.
Oui, enfin bon, après ça.
Non, mais il avait l'air un peu énervé. Enfin, pas énervé, mais je trouve qu'il disait pas ça dans un très bon sens, moi.
Ouais, puis ça fait deux fois en un mois et demi, quoi. C'est ça, comme tu l'as dit. C'est, bon, après, ça veut dire ce que ça veut dire. On lui accorde l'importance qu'on veut à ce genre de déclaration, mais je vois pas trop l'intérêt, ce genre de déclat après. Écoute, fallait gagner, hein, c'était pas content.
Bon, en tout cas, il a perdu. Voilà.
En tout cas, il a perdu.
Ça, c'est fait. Bon, Simon, t'en as parlé un court instant de ce jeune Espagnol qui fait un gros tournoi à Miami, Martin Landalus. 19 ans, sorti des qualifs, 151e mondial. Il a quand même battu Darderi, Khachanov, Korda. Fait quand même trois têtes de série pour l'instant.
Ouais.
Pas mal hein, pour un joueur qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas fait grand-chose. Hein. On le découvre.
Ouais, il était au Masters Next Gen l'an dernier, pour celles et ceux qui l'avaient suivi. Ouais, bah, encore un talent espagnol hein, dans ce vivier qui... qui est peut-être un peu moins fourni que le vieil italien.
Ah oui, bah oui.
Mais il y a encore de belles pousses. Il y a aussi là c'est beaucoup plus jeune. Hein. On attendra encore de le voir après sur le plus grand circuit. Mais cette semaine, il y a un certain Jaime Alcaraz. Qui
oui, mais il a
lui.
Dit qu'il en avait marre, qu'il jouait contre des mecs, qui jouaient comme Federer à chaque fois.
Ah oui, ouais.
Voilà.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui.
Donc on verra bien la suite.
Voilà. Non, voilà. Mais oui, c'est vrai que ce petit Landalucci, ouais, à suivre, ça peut être sympa. Puis du coup, il a un côté de tableau assez ouvert maintenant avec la défaite de. Donc pourquoi pas en quart de finale.
Bah ouais,
quel âge déjà
19 ans.
Ok.
19 ans. Alors il a quand même battu Korda qui était un peu diminué tout à l'heure.
D'accord. Ça c'est la petite info.
C'est la petite info. Voilà, on la glisse comme ça.
Voilà,
Korda qui avait un petit problème au dos a priori.
Et il jouera Lechka en quart de finale qui a battu Taylor Fritz.
Oh,
donc,
intéressant tout ça.
Voilà, s'il y a peut-être encore une opportunité.
Ah, intéressant ce tournoi de Miami.
Oui,
un petit mot aussi sur Marin Cilic.
Mais oui.
Quand même, Marin Cilic, 37 ans, un beau parcours jusqu'au troisième tour, tombé avec les honneurs face à Alexander Zverev en 3-7. Marin Cilic, 36e à la race. Hein. Moi, ça me fait plaisir. Ce
c'est impressionnant.
Au premier plan, là, quand même. C'est
non,
beau,
c'est
ça.
Incroyable, c'est cool. Franchement, c'est beau. Ouais.
Et je l'ai vu jouer contre Zverev en plus. Bon, je sais pas si j'aurais comme ça pendant 5 heures, mais physiquement, il est là, quoi. Hein. Il tient bon, il est quand même grand, c'est pas un physique très
voilà, facile à déplacer.
C'est pas Nishikori quoi, donc
la clé.
C'est ça. Et non, il est là, il tient, il fait les essuie-glaces à l'arrière. Enfin,
ouais, la détermination, le point levé, il joue. C'est fou.
Ouais. La détermination à la croate.
À la croate, ouais, c'est ça. C'est parfaitement.
Zverev était soulagé de le battre.
Oh bah je pense.
Oh, bref.
Ouais, il a galéré.
Zverev est soulagé de gagner un match. Hein,
c'est vrai. C'est vrai que c'est une impression que t'as quand tu le vois finir les matchs.
Non mais c'est vrai.
Il hurle et tout. Le gars, il est troisième mondial. Tu pourrais te dire bon bah vas-y, il passe ses tours normal contre Cilic en plus. Mais non, il a gagné.
Ouais.
C'est bien.
C'est pas mal. Pas mal. Bon allez, le point sur les Français.
Mais oui.
Parce qu'ils ont quand même assuré sur ce Masters 1000. Hein, 4 en 8e de finale d'un Masters 1000.
Vacherot, on peut dire 4,5.
Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est vrai. C'est arrivé que deux fois depuis 2017.
Trop. Hein,
donc on savoure cette présence exceptionnelle bleu-blanc-rouge sur les courts de Miami. Et tu l'as dit, c'est vrai que Valentin Vacherot... mais on va en reparler un peu plus tard dans l'émission. En tout cas, voilà, Vacherot est aussi au rendez-vous des 8e de finale. On commence par Arthur Fils, tiens.
Allez.
Hein, qui nous prouve quand même qu'il a bel et bien retrouvé son meilleur niveau, là. Hein.
Ouais.
Hein, après son quart à Indian Wells, cette semaine, il a quand même flanqué 0-1 Tsitsipas, on l'a dit il y a quelques instants. Une branlée, hein, j'ose le dire.
Ah bah, il faut
une
le dire.
Une branlée. Hein. voilà. Alors, autant vous le dire, et vous l'avez peut-être compris déjà, nous ne sommes pas en direct cette semaine, aussi bien pour des raisons personnelles, techniques et tactiques. Et alors, on vous parle, Arthur Fils joue donc son 8e contre Valentin Vacherot.
En ce moment même,
right now. Et il a gagné le premier set, pour ça être fait... vraiment right now.
Ouais, c'est ça, ça fait 6-4, 3-2 pour
voilà.
Arthur Fils.
Et vu que vous nous écoutez 3 jours après, vous vous en foutez un peu. Nickel, Chrome.
Ouais, mais ouais, au moins, on sait.
au moins on sait.
Au moins on sait.
Voilà, c'est vrai. Non, mais ça fait plaisir. Arthur Fils, moi, je suis content. Comme tu l'as dit, bon, Tsitsipas, on ne sait pas trop où l'a placé cette victoire. C'était un peu particulier.
Ouais.
Mais globalement, il enchaîne quand même deux bons tournois comme l'année dernière.
Comme l'année dernière.
Et voilà, he's back.
He's a real back. Si je peux me permettre. Non, la régularité qu'il montre, c'est quand même super, ouais. Quoi. Sortie de blessure en plus. Et il est jeune, donc c'est dur de retrouver un niveau comme ça.
Comme quoi, il a pris la bonne décision. Hein,
il a pris le temps
d'attendre. Ouais.
Mais ce qui est une preuve de maturité, quelque part.
Mais oui, tout à fait.
Ouais. Je pense que son entourage aussi est pour grand-chose.
C'est sûr.
Je pense, j'y crois, moi.
Donc, Arthur Fils, voilà, à suivre, ça c'est cool. Hugo Humbert aussi, qui sort sur une bonne dynamique. Ça fait plaisir aussi de le revoir jouer à ce niveau-là. Deux victoires en 2-7 pour lancer son tournoi.
Tout à fait.
Voilà, pas mal, Hugo Humbert. Bon, il n'a pas eu des gros adversaires pour l'instant.
Non, pas pour l'instant, mais
il a tenu son rang.
Diallo, c'était pas forcément évident.
Diallo, c'est pas cadeau.
Pas cadeau, sur dur comme ça. Donc,
voilà.
Il était sérieux, c'est bien.
Terence Atman, tiens. Terence Atman.
Il
y a le on et il y a le off. Alors là, il a enclenché le mode Cincinnati 2025.
Voilà, c'est ça.
Ah oui, il avait rallié les demi-finales, rappelons-nous. Son grand fait d'armes. Depuis, c'était plus dur pour lui. Puis là, on le retrouve. Et victoire en 2-7 contre Altmaier, puis contre Rinderknecht. Ensuite, grosse perf pour éjecter du tournoi Monsieur Félix Auger-Aliassime, 8e mondial. Une bataille en 3-7. Une victoire de costaud.
C'est sûr.
Clairement. Ouais,
mais j'ai trouvé quand même non bravo je commence par
le positif, bravo, mais
bravo Atman, mais j'ai quand même trouvé Félix Auger-Aliassime un peu à côté de ses pompes,
en deçà,
ouais, en courant ascendant, si je puis dire, parce que par exemple, bah, surtout dans le troisième set, c'est surtout ça que j'ai vu, le gars, il peut te lâcher des balles qui sont hyper faciles à mettre, il te fout tout dehors.
Oh là là.
Non, aïe, mais, aïe, mais aïe, écoute, aïe, comment aïe, tu peux aïe, être aïe, top 10 et rater des trucs comme ça. Non, il a fait beaucoup de fautes, il a raté des points faciles, donc forcément, ça aide pas pour gagner des matchs.
Je pense qu'il a besoin aussi d'un coach mental,
je pense,
Félix Auger-Aliassime.
Ouais. Je pense, ouais. J'en connais un, il est pas mal.
Ouais, pas mal.
T'es dans l'émission l'autre jour, je crois, d'ailleurs.
Ouais, il sera peut-être encore là.
Peut-être qu'il va revenir.
Peut-être que. En tout cas, Terence Atman, il sera top 50, quoi qu'il arrive, à l'issue du tournoi.
C'est pas mal. C'est son meilleur classement. Il a jamais été top 50, hein,
carrément. Donc non, quand il joue bien. Ça, c'est...
Ah bah ça, on sait, mais comme tu l'as dit, c'est on-off.
Mais quand il joue moins bien, c'est moins bien.
C'est un peu moins bien.
Ouais, l'analyse des mecs.
Oui.
Oh, les fins limiers, quoi. Là, ça... Attention. C'est...
Pif.
Je vous propose de passer à Quentin Alice.
Oui.
Tiens, dans notre liste de huitième de finaliste. Qui s'est quand même défait des griffes Davidovic Fokina. Comment descendre à Caen?
Exactement.
Ben ouais, une victoire fondatrice à l'Open de Caen pour notre ami Quentin, il l'avait dit, et c'est vrai.
Il a su.
Et ensuite, Machrak, le Polonais, là aussi, un joueur solide. Belle victoire pour Quentin, qui va retrouver le top 100 grâce à
oui,
ça.
Oui, il était redescendu en deçà du top 100. C'est bien, ça va faire des beaux points là pour bah, Quentin. Ouais. Il va sécuriser une place dans les tableaux de Grand Chelem là, pour quelques semaines, quelques mois.
Quelques jours.
Oh non, je trouve qu'il doit pas avoir grand-chose à défendre.
Non, c'est bien pour Quentin, là, il revient bien.
Ouais, c'est cool.
Et puis il aura pas mal de points à défendre à Caen en fin d'année, mais ça devrait bien se passer.
Les fameux points de l'Open de Caen.
Heureusement que les points de l'Open de Caen, c'est surtout des billets.
Après, j'ai une info, hein, pour les 20 ans de l'Open de Caen, il y a des points en jeu. Voilà.
C'est vrai?
Ouais. Non, c'est faux.
Ah là là, on y a cru.
Ça va pas te dire ça.
Ça va pas dire ça.
Au taquet. Le directeur de l'Open de Caen.
Qu'est-ce qu'il dit?
Oh. Vous l'entendez, il frappe la porte du studio.
Ça, c'est fou. Donc voilà, bravo à eux. Un petit mot sur Corentin Moutet.
Corentin Moutet,
qui a proposé un bon niveau de jeu aussi, qui s'est fait éliminer en toute logique
par Sinner.
Par Yannick Sinner.
Vous savez d'où il vient, Sinner?
Les montagnes.
80€ la journée, c'est ça?
80€ la journée, c'est ça. Donc Corentin qui a pris un nouvel entraîneur, donc le Suédois Mikael Tillström. Tillström qui veut dire en suédois, Simon?
Oh la vache.
Un peu d'étymologie, hein. Till qui veut
Till,
dire
radiateur
et Strom
mouillé.
Voilà, donc Till Strom
radiateur mouillé.
Et bien voilà, on y est.
C'est une mauvaise traduction de feu de camp.
On apprend des choses quand même dans pleine balle. Moi j'adore. C'est une émission vraiment de culture. Voilà, on y est à chaque fois, quoi.
Tu l'avais la vraie trad ou pas du tout?
Pas du tout.
Évidemment.
Pas du tout. Bon, avec un peu de chance, ça veut dire le fils de Strom, quoi.
Le fils de j'ai eu peur.
C'est souvent ça, quoi. Ou le fils de Till, je sais pas. Mais
fils de Till, une chance sur deux.
Bon voilà. En tout cas, Moutet, pas mal. Hein,
pas mal, bah, il continue lui aussi. Hein. Il est dans cette zone-là au classement où il est globalement tête de série sur à peu près tous les tournois sur lesquels il s'engage, parce qu'il est même tête de série là en Masters 1000, en Grand Chelem aussi. Il est fond de top 30. Et c'est bien, ils
en fond de top 30.
Ouais, c'est ça, fond de top 30.
Pas mal.
Ah, ouais. C'est ça, c'est la fin du top 30.
C'est pas mal. C'est bon, en fond de quatrième série. Oui, voilà. Lui, en fond de top 30.
Non, moi, je suis pas en fond de quatrième série. Je suis au fond du gouffre.
C'est pas
le
pareil.
Le fond du trou. Non, mais voilà, c'est cool pour Corentin Moutet qui passe toujours un ou deux tours dans les tournois. Il est sorti un peu de cette passe là où des fois il était pareil, un peu comme Atman sur coin alternatif. Là, il s'est vraiment installé depuis un an. On le dit quand même assez régulièrement dans l'émission.
Ouais, c'est bien. On sent qu'il joue un peu plus sérieux et moi je trouve que cet entraîneur Till Strom, là, qui a coaché quand même Gaël Monfils entre autres.
Oui, c'est ça, il était coach de Gaël.
Ça va aussi peut-être lui permettre de confirmer sur des bases de sérieux, de régularité.
Et il a les moyens.
Ça serait pas mal, ça. Hot. Et il y a un joueur dont on parle pas beaucoup, je trouve, peut-être parce qu'il est pas français, mais il l'est quand même un petit peu, n'est-ce pas, Simon? C'est Valentin Vachereau.
Tout à fait.
Vachereau. Alors, le mec est sorti de nulle part à Shanghai en octobre dernier, on s'en rappelle. Il rafle un Masters Mid, à la surprise générale. Et après, il baisse pas vraiment de régime. Hein. À 27 ans, il découvre le top 100, le grand circuit, les grands chelems, les gros tournois. Et puis, il continue de grappiller des points à gauche, à droite. Car à Adélaïde, car à Acapulco. Troisième tour en Australie. Il gagne ses matchs en Coupe Davis, notamment le dernier face à Bublik.
Eh oui.
Ouais, pas mal, hein. Parce qu'on en a vu, hein, des mecs sortir des tournois de Maboule et retomber dans l'anonymat quelques jours plus tard. On va y revenir dans quelques instants. Mais juste avant, quand même, un petit mot sur Vachereau. Je trouve que, mais je sais pas pourquoi il est pas surmédiatisé. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est pas français? Mais il l'est quand même à moitié.
Il y a de ça, je pense.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup, je trouve. Alors que c'est quasiment le cinquième français en huitième de finale, on peut le dire.
On peut le dire à moitié, ouais. Non, mais c'est vrai.
Et voilà, c'est un mec qui joue top, il est quasiment dans le top 20 là.
Ouais, c'est ça, il est tête de série 24, donc ouais, c'est ça.
Mais là, il va monter 22e là, ouais. Quoi qu'il arrive. Mais
j'aimerais bien quand même analyser son cerveau pour savoir comment, à un moment donné, t'es 200e mondial, tu gagnes un tournoi.
C'est toi le spécialiste mental.
Oui, c'est vrai, c'est toi. Hein.
Non, mais c'est vrai, tu vois, t'es 200e mondial. Et d'un coup, tu gagnes ce tournoi-là qui te change ton jeu, peut-être la manière d'aborder les matchs. Et du coup, après, tu arrives à t'installer. Tu le dis, il va être 22e mondial. Ouais. On pourrait même penser qu'il va rentrer dans ce top 20, puisqu'il commence à battre justement ces joueurs du top 20, avoir une régularité de joueurs de top 20. Donc, non, c'est quand même fou, quoi, ce qui lui arrive. Et effectivement, il manque de médiatisation.
Bah, je trouve, on a beaucoup parlé de Shanghai, Rinderknecht,
etc. À juste titre.
Mais après ça, moi, quelle est la plus grosse surprise, en fait? Est-ce que c'est sa victoire à Shanghai ou c'est, je trouve, qu'il réussisse à confirmer derrière comme ça et à pas se faire balayer au premier tour de chaque tournoi qu'il va disputer? Parce qu'il en a quasiment pas
fait. En vérité.
Pour moi, c'est plutôt ça.
Je suis d'accord aussi. C'est plutôt cette vague de résultats qui s'inscrit là au fur et à mesure des semaines. Comme tu l'as dit, il passe toujours des tours. Alors, oui, ok, il a pas regagné de titre depuis. Il n'a pas refait de finale, etc. Mais c'est jamais un flop toujours à certains tournois. Pour prendre l'exemple de Rinderknecht, qui lui, pour le coup, derrière cette finale à Shanghai, lui, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut, il a quand même du mal depuis. Alors certes, il y a quelques victoires de temps en temps, mais on les compte plus que Vachereau.
82e à la race, Rinderknecht.
J'avais pas la stat,
pour
ça
l'instant.
Fait mal.
Ouais. Ouais.
Alors que Vachereau, voilà, il continue à passer ses tours de temps en temps. Bon, là, il joue actuellement face à Arthur Fils, vous en foutez parce que vous écoutez ça vendredi, mais...
Vachereau a pris 6-0.
Il y a 35. Hein,
il y a 35, oui, voilà. Il change de côté actuellement. Non, mais c'est vrai que c'est franchement à saluer, tu as tout à fait raison de le souligner.
Bah, je trouve, parce que j'ai pas assez fouillé, mais j'aimerais bien savoir combien de mecs ou de filles d'ailleurs, de joueuses aussi, ont existé comme ça sur le circuit. T'arrives, t'es 200e, 250e, paf, t'arrives sur le grand circuit pour de bon, et puis tu t'installes. On a l'impression qu'il est là depuis déjà 2-3 ans presque,
ouais, Vachereau,
quand il aborde ses tournois, comment il aborde ses matchs, alors qu'il est en pleine découverte. Ça fait 4 mois.
Ça va être super intéressant de voir à quel point il va monter et surtout jusqu'à quand il va stabiliser un petit peu ce niveau de jeu.
Bah c'est ça, et puis en vrai, à force de capitaliser des points comme ça droite à gauche, il va mine de rien sécuriser aussi peut-être ça, ce qu'il a à défendre à Shanghai. Ça va être intéressant aussi pour lui de ce point de vue-là de pouvoir aller grappiller jusque-là, quoi.
Alors, je l'ai entredit tout à l'heure, il y a des joueurs et des joueuses qui sont retombés dans l'anonymat quelques jours après leur coup d'éclat. Eh bien, on va rester sur ces joueurs, sur ces joueuses, Enzo, avec ton décalage coup droit.
3, 4. Foot, 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 foot.
Foot. Et oui, aujourd'hui, on va parler des meilleurs tubes de l'histoire du tennis. Alors désolé, non, pour les plus mélomanes, la musique ne sera pas à l'honneur dans cette chronique. Je ne vais pas reprendre un tube de Goldman à la sauce tennis, je laisse ça à Wam, aux professionnels. Ce ne sera pas non plus une review détaillée de l'EP de Corentin Moutet, intitulé No Fake, et sorti en 2024. Non, aujourd'hui, les tubes que nous allons évoquer sont plutôt de grandes épopées. Quand des joueurs ou des joueuses sont sortis de leur boîte pour éblouir la planète tennis, avant de sagement y retourner dans leur boîte et rentrer rapidement dans leur rang. La suite de leur carrière n'est pas forcément une descente aux enfers comme ce qu'on peut voir avec Tsitsipas actuellement, mais plutôt une suite de carrière lambda, pas de pic extraordinaire, pas de creux infamants, bref, pas de montagnes russes, on serait plutôt sur des montagnes belges. Un truc bien plat, bah, comme la Belgique, quoi. Pour faire un parallèle avec ta chronique, Simon, les joueurs et les joueuses dont je vais parler sont des illustrations parfaites de tes conseils avisés sur la préparation mentale. Assurément, ils et elles ont mis toutes leurs chances de leur côté en profitant d'un bon dessert sans lactose accompagné d'une brique de lait. Des conseils nutrition qu'ils n'ont appliqués qu'un temps, puisque sinon, bah, ils auraient tous été numéro 1 mondiaux ou numéro 1 mondial. Vous vous doutez bien que l'histoire du tennis regorge d'exemples et je dois bien avouer que faire des choix fut très compliqué, mais à la fin, il n'en resta que trois.
Et le premier, c'est un géant chauve, revers à une main, venu tout droit des Pays-Bas, qui a fait trembler la planète tennis à Roland-Garros il y a plus de 20 ans déjà.
Et oui, Moichi, je suis sûr que tu as kiffé.
2003, ça, non?
2003, ah, tout à fait. Je suis sûr que tu as kiffé celui-là.
Ah oui, bah, je me rappelle comme si c'était peut-être pas hier, mais avant-hier.
Eh bien, parce que c'est un représentant de la caste des revers à une main, contingent assez fourni au tournant du millénaire. Mais on peut pas vraiment dire que Martin Verkerk fut le joueur le plus marquant du lot.
Ah, t'es moche à avoir joué en plus.
Ah bah ça. Ah, et pour cause, justement, ce n'est pas le joueur le plus sexy de l'histoire. Alors, Martin Verkerk, il est né le 31 octobre 1978, soit le même jour que Franck Gastambide. À croire que tous ceux qui sont nés ce jour-là étaient destinés à finir chauve à 40 ans. Bref. Il est originaire de Leiderdorp.
On salue tous les gens de 40 ans, évidemment.
Évidemment, et tous les chauves aussi. Leiderdorp, une ville néerlandaise de 27 000 habitants, tout ce qu'il y a de plus banal. Et la carrière de Verkerk n'échappe pas à ce constat. Elle est d'une banalité confondante, de ses débuts pro en 1995 jusqu'au premier mois de l'année 2003. En février, il bat Kafelnikov en finale du tournoi de Milan qui se joue sur moquette intérieure. Et ouais, on joue encore sur moquette à cette époque-là. Une surface qui convient parfaitement au profil de Verkerk, une tour de contrôle d'1m98 au service de feu. Ce Superman à la néerlandaise goûte donc particulièrement aux surfaces rapides, mais pour autant, la terre battue n'est pas sa kryptonite. Ce n'est pas une référence en la matière, mais au vu de son physique de pylône EDF, c'est pas si mal. J'avoue, je l'aime bien celle-là. On respecte aussi, on salue tous les pylônes EDF qui nous écoutent, évidemment. Arrive donc Roland-Garros, et porte d'Auteuil, Verkerk se transforme en bug de l'an 2003 et il élimine un à un ses adversaires, à son tableau de chasse quand même Carlos Moya, vainqueur en 98, et Guillermo Coria, référence de l'époque sur terre battue, on en reparlera un peu plus tard, vaincu en 3-7 et à qui Verkerk aura même l'audace d'infliger un 7-0 dans le tie-break du 3ème set. Ça chique. Verkerk, il plane, il est à une victoire de la Coupe des Mousquetaires, le dernier rocher sur son chemin se nomme Juan Carlos Ferrero, et malheureusement l'épopée du Néerlandais va s'arrêter net, terrassé 6-1, 6-3, 6-2, le moustique remporte son premier et unique grand chelem, et Verkerk grimpe lui au 46e rang mondial, il atteindra son meilleur classement quelques mois plus tard, 14e en septembre 2003, il a alors 25 ans, et la carrière de Verkerk va rapidement décliner, minée par les blessures, et selon ses propres mots, par un manque de sérieux qui lui a coûté cher. Pour l'anecdote, dans un entretien donné à West France en 2024, il a qualifié sa finale de blague. Alors, cette finale à Roland-Garros, pour lui, c'est une blague. Et il a livré son astuce qu'il a amené en finale de Roland cette année-là. Deux bières et un menu composé à 100% de sushis et de crevettes après chaque victoire. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour gagner votre prochain match.
On va en prendre note. On ne sait pas si son secret c'était la bière, mais plus proche de nous en tout cas, l'US Open 2021 a aussi vu une épopée légendaire, peut-être même la plus grande épopée de l'histoire.
Alors je ne sais pas ce qu'ils ont comme bière en Angleterre, je ne suis pas forcément le plus grand connaisseur. Mais...
Nous en avons quelques-unes.
Nous en avons quelques-unes. Bon, passons ces considérations houblonneuses et parlons plutôt du parcours de malade d'Emar Raducanu à l'US Open 2021. Je me posais la question en écrivant la chronique, mais perso je pense que c'est la plus grande performance sur un tournoi de l'ère moderne. Rappelons le contexte, hein, même si c'était il y a un petit peu moins de 5 ans. Le circuit semble alors parti pour être dominé pendant des années par le duo Barty-Osaka. La japonaise est tenante du titre à l'US Open à ce moment-là et double vainqueur à Flushing Meadows. Et si on est encore loin de l'hégémonie Sabalenka-Swiatek, on imagine mal le tournoi échapper à une des 10 têtes de série, des 10 premières têtes de série. Peut-être que Swiatek semblait la moins bien armée sur dur, c'est dire hein, le niveau moyen. C'était sans compter sur la glorieuse incertitude du sport et sur un coup de main de la faucheuse, puisqu'une vraie hécatombe va frapper le tableau sur les 32 têtes de série au départ. 18 ne voient pas la deuxième semaine.
Mais elles sont pas mortes.
Non. C'est vrai que c'est la précision à porter.
Je précise.
Mais tu fais bien de l'apporter.
Saleté de Covid.
Ah bah ça. Et elle jouait pas avec le masque aussi. On leur avait dit pourtant. Bref. Et à ce petit jeu, des joueuses moins connues vont tirer leur épingle du jeu. À commencer par Emma Raducanu. Elle n'a pas encore 19 ans quand l'US Open débute. Et quelques mois auparavant, elle avait déjà signé un premier fait d'armes. Invitée à Wimbledon, elle y atteint les 8e de finale. Chose que j'avais complètement oubliée, personnellement. Et que je pense beaucoup ont oublié également. Ce qui préfigure de l'exploit qu'elle va réaliser à l'US Open, Raducanu est 150e mondiale au début du tournoi, passe donc par les qualifs, une formalité, avant de rallier le tableau principal. La suite, on la connaît. 7 matchs, 7 victoires en 2-7, ça fait beaucoup de 7. Une finale historique contre une autre joueuse non tête de série, Leila Fernandez, et un exploit à peine croyable. Raducanu remporte son premier titre, et encore à ce jour son seul titre, en Grand Chelem. Elle devient par la même occasion la première anglaise à gagner un grand chelem depuis 1977. Une performance majuscule qui la propulse à un nouveau statut. Pas évident à assumer pour une joueuse d'à peine 20 ans. Si elle est revenue aujourd'hui même aux portes du top 20, une statistique illustre bien ce passage plus difficile et on le comprend. À Cluj, en début d'année, elle a joué sa première finale sur le circuit depuis cette US Open totalement dingue.
Oh là, ouais. Une quinzaine totalement folle. Ton dernier joueur en a connu une également. Et là encore, bah c'est Roland Garros qui s'est mué en théâtre des rêves.
On a parlé de l'édition 2003 tout à l'heure avec Verkerk, parlons maintenant de l'édition 2004. La dernière avant qu'un tsunami nommé Rafael Nadal ne casse la matrice pendant presque 20 ans. Roland Garros 2004, une édition historique dès le premier tour, puisque le record du match le plus long de l'histoire y est battu, avec un duel 100% français à l'époque, hein, Cocorico. 6h33 de match entre Fabrice Santoro et Arnaud Clément. C'était bien évidemment avant que Mahut et Isner ne passent par là. Mais ici, c'est un Argentin qui nous intéresse, Gastón Gaudio. Lui aussi frappe son revers à une main, un coup soyeux et raffiné qui explique sûrement une partie de son surnom, El Gato, le chat, c'est mignon. Et le chat, en bon argentin qu'il est, c'est un spécialiste de la terre battue. Il en bouffe matin, midi, soir, il vit terre battue, il dort terre battue, il pisse terre battue, bref. Ce bon vieux Gastón Gaudio ne performe que sur l'ocre, ce qui ne permet pas d'être compétitif sur l'entièreté d'une saison, parce que manque de bol, bah, y a d'autres surfaces dans la vie. Alors, quand les premières balles de Roland Garros 2004 sont échangées, les bookmakers ne donnent pas cher de notre bon vieux Gaston. La gaffe n'en sera que plus grande,
oh,
évidemment.
Joli.
C'est un autre Argentin qui est à la faveur des pronostics, Guillermo Coria. Coucou, le revoilou. Sa présence en finale n'est donc pas une surprise. Par contre, celle de Gaudio est bien plus inattendue, d'autant plus que Gaston a découpé Hewitt et Nalbandian pour rallier la finale. Un duel 100% argentin en finale de Roland-Garros 2004 qui tourne vite à la démonstration pour Coria, qui mène 6-0-6-3 après une heure de jeu. Autant vous dire que j'aurais déjà rangé la raquette. Mais Gaudio, lui, ne rend pas les armes. Il gagne le troisième, puis le quatrième set, avant d'effacer deux balles de match à 6-5 dans le cinquième et dernier set. Perclus de crampes, Coria et Gaudio livrent une finale dantesque. Et c'est finalement Gaudio qui arrache la victoire. 8-6 au cinquième set. Non, ce n'est pas la bière. On y revient toujours à cette question de bière, 8-6. Une défaite qui marquera le début de la fin pour Coria. Et pour Gaudio, bah, c'est pas beaucoup mieux. Il gagnera 5 titres sur Terre pendant l'année 2005, quand même, mais des titres mineurs, des équivalents aux ATP 250 et 500 contemporains. À Roland-Garros, il verra les 8e de finale en 2006 et 2007, avant une chute libre au classement. Là, on peut le dire, une chute libre aggravée par une dépression. Il restera pendant 2 ans sans aucune victoire sur le circuit principal, retombant jusqu'à la 966e place mondiale. Gaston Gaudio mettra un terme à sa carrière en 2011, à seulement 33 ans, seulement entre guillemets. Mais il fait partie des 3 Argentins à avoir remporté un titre du Grand Chelem dans l'ère moderne à ce jour, avec Guillermo Vilas et Juan Martín Del Potro.
Évidemment.
Évidemment. Eh ben, c'était cool cette petite chronique là.
C'est baladé dans les époques.
Dans les époques, effectivement, dans le passé.
Ouais.
Top ça, top ça. Donc toi, tu mettrais une pièce quand même sur Raducanu pour la plus belle surprise.
Ah ouais, quand même. Dans l'ère moderne.
De l'ère moderne.
Enfin, sur un tournoi.
Moi, Simon, toi.
Moi, j'ai bien aimé la dernière histoire.
Gaudio.
Gaston
Gaudio.
Gaston Gaudio.
Ouais, bah, et ben moi, dans le même délire, moi je trouve quand même que que notre ami Vacherot, c'est quand même costaud. Quoi.
Ouais, après, ça, ouais, c'est le grand chelem qui me fait dire ça.
Oui, il y a côté grand chelem. Mais le côté sortie des qualifs, quand t'es 250e mondial, je sais plus, t'as jamais joué quasiment sur le circuit.
C'est vrai que Vacherot, il rentre dans la discussion.
C'est complètement dingue, quoi.
Clairement.
Il devait même pas faire les qualifs.
Il devait même pas faire les qualifs, on l'avait raconté à l'époque. Ouais.
Il devait pas faire les qualifs.
Il a remplacé Luca Nardi. Le fils de Marie-Ange.
Le cerveau qu'il a, le
neveu. Le neveu de Marie-Ange.
Le neveu de Marie-Ange. Elle nous embrasse.
Bon, est-ce que vous savez que cette semaine, on fêtait l'anniversaire de Sir Elton John, 79 ans pour l'icône anglaise. Et pour l'occasion, je vous propose un de ses premiers tubes. Ça date de 1972, une chanson qu'il a écrite à Marseille, pour la petite histoire. Et ouais.
Oh, peu cher.
Ouais, c'est un hommage à Joko le Croco.
Mais non.
Et oui, si, c'est Crocodile Rock.
La, 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 la. La 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 la.
Alors, il est comment ce petit Crocodile Rock quand
ça
même?
Ça me prend pas une ride.
Ah,
ça
fait toujours plaisir. Ça a plus de 50 ans quand même. Ouais.
Moi, j'aime le rock. Putain.
On aime le rock. Le Crocodile Rock.
Ah, il venait du cœur celui-là.
Ah, ça fait du bien. Allez, on retourne à Miami.
Bien sûr.
Et on s'intéresse au tableau féminin avec là aussi des surprises, à commencer par l'élimination très précoce d'Iga Świątek, sortie dès son premier match par sa compatriote et néanmoins polonaise, Magda Linette. Et... Alors, qu'est-ce qui se passe chez Iga Świątek?
Là, c'est faudrait appeler Marine. Mais
oui, oui.
Bon, malheureusement, elle n'est pas avec nous ce soir.
Non, elle est dispensée.
On se demande pourquoi. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'elle fait une dépression à cause de
Il y a des chances.
C'est possible.
Il y a des
chances. J'ai l'impression que Świątek aussi fait une dépression
à cause de Marine.
À côté. C'est ça.
Mais rien à voir.
Rien à voir. Enfin. Non, c'est assez, inquiétant en vrai là pour Świątek. Bon, après, on sait que ça fait déjà quelques mois que c'est un peu plus compliqué pour elle. Enfin là, il y a des matchs quand même qui sont vraiment, vraiment dégueulasses, faut le dire. C'est vraiment pas beau quoi.
Non mais ça fait un petit moment.
Quand
même
ça fait vraiment un moment. Ça ouais, ça s'éternise quoi. Et elle semble pas sortir de cette passe là. J'avoue, je sais pas trop. Je sais pas si c'est les adversaires qui la lisent mieux dans leur préparation de match ou quoi que ce soit.
Est-ce qu'elle est moins solide?
Moins solide aussi, il y a peut-être un peu de ça, mais...
Ouais, et puis bon, est-ce qu'elle est pas en train de se lasser un petit peu? Voilà, faut toujours maintenir...
Ouais, en tout cas, c'est lasser de son entraîneur.
Oui.
Oui, Wim Fissette, c'est ça, tout à fait. Il n'y a plus de collaboration entre les deux, tout à fait.
Mais elle l'a dit, de toute façon, dans une interview, il n'y a pas très très longtemps, qu'elle sentait qu'elle en avait un petit peu plein la patate.
Ras la casquette.
Ras la casquette. La coupe était presque pleine.
Oh là là, voilà, là, là, voilà. Là, là là.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Est-ce qu'il faudrait qu'elle prenne un peu de temps pour elle? Est-ce qu'il faudrait qu'elle s'éloigne un petit peu?
Peut-être. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est assez étonnant et assez inquiétant. D'autant plus que là, il y a la tournée sur Terre battue qui arrive. Bon, alors pas forcément beaucoup de points à défendre. Elle a quand même certains qui sont bien placés là sur les prochaines semaines, mais c'est vrai que ouais, ça va commencer à devenir inquiétant parce que sa marge se réduit au fur et à mesure sur le reste. Autant au moment de temps où on voyait vraiment le top 2, Sabalenka, Świątek, inatteignable. Là déjà, Rybakina s'est immiscée là-dedans.
Ouais, en train de faire son trou. C'est vrai. Rybakina.
Anisimova est pas très très loin de la faire. Bon, il y a des points à défendre, mais pareil. Coco Gauff n'est jamais très loin aussi. Bon, même si là il y a un Roland à défendre, ça va pas être une mince affaire non plus. Non, mais voilà, ça peut être. Ouais, va falloir suivre ça dans les prochaines semaines et prochains mois.
C'est sûr.
Merci Simon.
Très concis.
Spécialiste mental, toujours.
Toujours.
Toujours le petit mot qui fait la diff.
Je suis d'accord. Non,
mais moi, je trouvais ça presque un peu dommage. En fait, ça arrive, je trouve, ce petit, on va dire, on peut parler de déclin là. Hein, on ne sait pas si c'est temporaire ou quoi, mais en fait, on n'a pas eu une grosse lutte sur un moyen long terme avec Sabalenka, je trouve. Au top, toutes les deux.
Ouais.
On les a pas eu vraiment en fait. Hein.
Ouais.
Il y a eu quelques duels acharnés, mais pas beaucoup quoi.
Ouais. Puis c'est vrai que c'est deux joueuses au profil quand même assez différent. Enfin, je veux dire, Świątek à son top, on va pas parler au passé parce qu'elle va peut-être y revenir, mais quand elle a vraiment bien performé sur terre battue, elle était vraiment la référence et il y avait pas de discussion. Et Sabalenka est toujours une référence sur dur et il y a quasiment pas de discussion non plus là-dessus. Ouais. Donc en fait, finalement, c'est vrai que ça nous a donné finalement des duels assez à distance quoi. On s'y attendait que Sabalenka perf là, on attendait peut-être une surprise, mais au final on les a pas trop eu quoi.
Bon, En tout cas, voilà, on va voir un petit peu là ce que ça va donner, notamment sur terre battue, tu l'as dit, ouais. C'est la surface de prédilection et bah, ça va pas tarder, la terre battue. Svitolina, en bonne forme depuis quelques temps, sortie au troisième tour à Miami par l'américaine Baptiste.
C'est, j'adore cette introduction. Svitolina en pleine bourre, éliminée.
Non, mais c'est parti des petites surprises qu'on a là en Floride.
Oui.
Mais Baptiste, alors Baptiste. Je la connais pas cette joueuse.
Tu connais pas Baptiste?
Mais en tout cas, c'est pas un petit coup comme ça, hein, Baptiste. Hein,
Enfin, Baptiste, qu'est-ce que tu fais?
Elle en a sorti quelques-unes.
Hein. Alors, enfin, ça c'est enfoui aussi. Au
je ne l'ai pas du tout.
C'est pas grave. Ça vaut pas le coup d'être relevé.
T'es pas de la Gen Z des os.
Non, mais c'est vrai, ouais, un coup d'épée là, un peu dans l'eau. On sait pas trop d'où ça sort non plus. C'est une perf un peu étonnante. Mais elle a sorti aussi Ostapenko derrière.
Bah, oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est pas un coup comme ça pour rien.
Donc là, ouais.
Svitolina, Ostapenko, il y a eu Samsonova quand même qui était tête de série aussi juste avant.
Aussi, ouais.
Donc c'est pas non plus. Voilà, c'est ça, un parcours assez remarquable.
Totalement remarquable.
C'est pas jusqu'où ça va aller. Enfin, là, à l'heure où on se parle, la prochaine, c'est quand même Sabalenka. Hein.
C'est Sabalenka, là.
Sur sa route.
Hein. Attention.
Donc voilà, donc on l'a dit, Svitolina sortie, Swiatek sortie très tôt aussi. Anisimova. Sortie sèchement par Bencic.
Ouais.
En 8ème, 6-2. Et Mira Andreeva. Bah, ça va mal. Hein.
Ouais, ça va vraiment mal.
Ouais, nouvelle défaite en 8ème aussi contre Mboko avec un cinglant 6-0. Ouais. Concédé dans le 3ème pour finir la partie. Fait. Un petit mot sur Andreeva. On sait que tu l'apprécies, tu la suis de près.
C'est dans la lignée malheureusement de ses dernières sorties. On en discutait dans la dernière émission, je crois.
On peut en rediscuter.
Il y a pas de raison. C'est dans la lignée. Tout est dur en fait. Vraiment, la moindre victoire, on a l'impression que vraiment c'est dur. Elle va la chercher. Là, voilà, son premier tour, c'est contre Kessler. Pareil, c'est une victoire laborieuse en 3-7. Il y a certes des sets assez secs, mais on sent que rien n'est facile. Et après, voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage du grand circuit. On le répète, elle est extrêmement jeune encore.
Oui.
Mais là, c'est vrai que pour l'instant, elle s'en sort pas trop de cette passe-là.
Ouais, moi, j'aimerais pas être à la place de Conchita
Martinez.
Ouais. Et puis, parlons quand même quelques instants de cette Thalia Gibson.
Bah ouais, alors là,
Thalia Gibson, c'est le tube là, du moment.
Bah, c'est le tube, ouais.
Australienne de 21 ans, sortie des qualifs déjà il y a 10 jours à Indian Wells, qui avait été jusqu'en quart de finale en battant la bagatelle de 4 joueuses du top 20. Vlatipa Kermessa cette semaine.
C'est parti.
Hein, encore sortie des qualifs, elle transperce encore 2 top joueuses, Osaka et Jovic. Et elle a fini par rendre les armes en 8ème contre Rybakina, mais c'était encore fou. Hein.
Ouais, on en discutait pareil là, en amont de l'émission. Un tube, voilà, comme on en voit de temps en temps. C'était assez incroyable. Vraiment des victoires sans bavure hein, contre Osaka en 2-7. Vraiment sec contre une victoire sèche pardon contre Jovic. Bon, Rybakina ça a été assez sec aussi dans la défaite, mais encore une fois c'est ça continue. Alors jusqu'où ça va aller? Est-ce que c'est temporaire?
Difficile à dire.
Voilà. Difficile à dire. Mais encore une fois, assez
incroyable. Elle est jeune Gibson.
21 ans.
C'est jeune,
est-ce que c'est jeune 21 ans?
J'ai l'impression.
Où s'arrête la jeunesse?
Ouais, l'Andalous, 19 ans.
Oh la vache!
L'Andalous.
Et Thalia Gibson, 21 ans.
Tu connais tous les âges.
Et l'Andalous, 19 ans aussi.
Et Thalia Gibson?
Non, il l'a 21? Pas, Gibson.
Non, je sais plus.
21 ans.
21 ans. En tout cas, elle est tout près du top 50 maintenant.
Bah oui! Avec ses
à force.
Elle a même pas sa photo sur le site de l'UTA.
Oui, c'est ça.
Pour dire.
C'est vraiment la joueuse.
Je trouve que c'est quand même.
L'invité de dernière minute.
Exactement, c'est ça. Et donc, à l'heure où on se parle, on est en quart de finale. Sabalenka est là, Rybakina est là, Coco Gauff est là, Pegula est là. Nos pronos, c'est maintenant. Allez, on parlait des filles. Et on va rester là-dessus. Honneur aux dames.
Allez.
Qui est-ce qui veut se lancer?
On a un tableau ouvert hein, quand même, hein, mine de rien. Surtout en bas, c'est assez. Il y a eu l'hécatombe, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que Coco Gauff, vraiment dans les grosses têtes de série, elle opposée à Bencic sur son quart de finale. Pas évident hein, cette histoire, vraiment pas évident. Est-ce que en bas, Mboko peut aller jusqu'au bout?
J'ai bien aimé moi le match de Mboko. Contre Mira Andreeva, même si c'est compliqué à dire vu qu'Andreeva elle balance un peu tous les points.
T'as beaucoup aimé?
J'ai beaucoup aimé.
Ouais, attends, ouais, elle est bien.
Rien, hein.
Elle est bien, elle est bien.
Ouais, ouais.
Elle est très très bien.
Ouais, c'est vrai.
Donc, elle est très très bien.
J'aime beaucoup. Ah, j'ai
l'air là. Je l'ai, c'est bon.
J'aime beaucoup aimé.
Oh là là, là, ça y est, il l'a. Il est bon.
Ah là 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 là.
J'ai vraiment vite beaucoup aimé, mais je sais pas.
Simon, c'est une bombe à retardement. J'adore cet homme. Vraiment.
J'aime beaucoup aimé.
Oui, c'est vrai.
Tu vois, j'aime beaucoup aimé ta blague.
Ah, merci beaucoup.
Oh là,
tu peux la reprendre quand tu veux. Allez, c'est facile à placer, celle-là.
Oui, bon, oui.
Bon, allez, moi, je me lance. Je me lance. Et ben, moi, je dirais, allez, coup double de Rybakina.
Oh
ouais, j'y vais là-dessus. Paf, on y est.
Coup double
de Rybakina. Après
eh ben, en finale,
Wells,
tu veux dire?
Elle gagne.
Elle gagne le tournoi.
Elle gagne le tournoi.
Mais qui a gagné Indian Wells?
Rybakina.
Pas Sabalenka.
C'est Sabalenka. Sabalenka. Oh putain, je suis perdu.
C'est Sabalenka.
Il veut faire le malin.
Bon alors, Rybakina qui prend sa
qui
revanche.
Enchaîne. Qui enchaîne.
Qui prend sa revanche.
Qui prend sa revanche en finale contre eux.
Contre pas Sabalenka.
Eh ben non,
c'est pas possible.
Elle l'aura sorti avant.
Du même côté.
En finale. Je sais pas, je veux même pas le savoir qui sera en finale.
Rybakina.
Je sais juste que c'est Rybakina qui va.
Ah, mais t'as pas compris le principe du prono.
Prono, on gagne un gagnant ou une gagnante.
Voilà.
C'est ça un prono.
Simon.
Alors, moi en finale, il y aura Mboku.
Okay.
Parce que Mboku. Mboku, cette joueuse. Non, vraiment, Mboku. Je pense qu'elle peut faire quelque chose. Gauff, parce que. Ils me font rire les petits loups, je vous aime. J'aime beaucoup les petits loups, mes petits loups avec moi aussi.
Oui.
Coco Gauff, non, c'est solide Coco Gauff, mais en même temps, elle perd des petits sets. Et Bensi, ça va pas être facile. Donc Mboko qui va en finale face à Sabalenka ou Rybakina, et ben moi je te l'annonce, ça va être Sabalenka.
Et ok.
On oublie de donner un vainqueur.
Oui,
vainqueur.
C'est un peu le principe, c'est les pronos.
Bah tu donnes un final. Moi je peux donner que deux finalistes.
Oh là 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 là. Bon, voilà. Enzo, à toi.
Sabalenka Mboko.
D'accord. Ça marche, c'est bon. Et ben moi, allez, sur qui Mboko, j'avoue, ouais, ça me tente plutôt bien aussi dans le bas du tableau. Après, attention, Mourova est capable aussi de surprise. Elle, mm-hmm. elle a eu un tableau plutôt abordable jusque-là, Mourova. Mais allez, je vais mettre Mboko aussi en finale. Et en haut, bah, Rybakina aussi, ouais, j'y crois. Rybakina qui va prendre sa revanche et y aller.
Okay.
Et je mets victoire d'Mboko. Allez.
Victoire d'Mboko, ok.
On y va.
Moi aussi, Victor aime beaucoup.
Il attendait.
Ok, deux aime beaucoup et un Rybakina alors. Chez les messieurs, bon là on a un peu plus de choix.
Ah là, hein. C'est ouvert.
Là, c'est
les galères inévitables.
Ah là, dis donc.
On a le Persineur, hein. Qui vient d'où déjà? San Candido.
San Candido, si.
3500 habitants. Alors, ouais. Soit on a
80 euros la journée.
56 pour les étudiants.
2500 d'altitude. On respire plein poumon.
Ah, allez. En haut du tableau. En tout cas, il y a vraiment le téléphérique au cœur du village. C'est pratique. Hein.
Ah, très sympa.
Je vous le dis. Non, je suis un peu
mauvais. Et alors, le problème, c'est qu'ils mettent trop de sucre dans les croissants.
Ah.
Ça perd ce goût un petit peu beurré.
Non, mais c'est une pizza qu'on prend là-bas.
Oui, non, mais
bah
oui.
Bah
non, mais
oui.
Il va en Italie prendre
bah
des croissants,
oui,
donc, franchement.
Bah, excuse-moi d'aimer mon pays.
Et des linguines à la vongole, évidemment.
Évidemment.
Bon, alors. Tout ça pour dire. Non, mais c'est surtout le haut du tableau, là.
Surtout le haut du tableau. Jusqu'en bas, bon, voilà, il y a un épouvantail.
On rappelle Alcaraz, ça y est, c'est fini, out. Il y a plein de gens qui sont pas là. Demineur n'est plus là.
Fritz n'est plus là.
Draper n'est plus là. Enfin, voilà, il y a vraiment une petite hécatombe. Allez, moi, je vais rester sur. Moi, je suis un peu foufou, là. Je vais mettre Arthur Fils. Je sais même pas où il en est dans son match.
Moi aussi.
Tu me vois, ouais, j'allais le dire aussi. Ben, on va vous annoncer le résultat trois jours après plutôt.
Attention.
Vas-y, meuble, hein, parce que le
alors,
temps que je meuble.
C'est la magie de la radio.
Ah, il y a un set partout. Aïe.
Un set partout. Mais c'est pas grave. Je reste sur Arthur Fils.
Ok.
Voilà. Et de l'autre côté, non, pas de surprise de l'autre côté. Moi, ce sera Sinner.
Sinner.
Et victoire finale de Sinner.
Ok.
Qui vient de. San Candido.
Oui, c'est bon.
San Candido.
C'est pour ce moment-là. Voilà. Moi aussi, dans la deuxième partie de tableau, ce sera Sinner qui sort en finale.
Oh.
Opposé à. Et alors là, j'ai. Mais c'est vrai que c'est tentant de dire Arthur Fils parce que t'as envie d'aller le voir jouer quand on voit son niveau de jeu. Et côté un peu décomplexé aussi
mais,
dans lequel il joue.
Mais
j'y vais clairement. J'y vais clairement. Je mets Fils en finale. Mais effectivement.
Donc Sinner Fils, la même finale pour
bon,
tous
en fait,
les deux.
Tout comme moi quoi. Eh, j'y peux rien.
Oh
hein.
Là là.
T'as de bonnes idées. Et là, tu peux le dire, Sinner qui fait le coup double.
Ouais. Ouais, le natif de San Candido.
Si, ouais. On l'avait pas dit encore.
Non, bah non, faut qu'on le sache.
Et ben moi, en vrai, je serais allé sur la même finale aussi, Sinner Fils. Mais bon, allez, on va essayer de changer un petit peu de disque quand même.
Surtout, il va perdre dans une demi-heure.
Il
va chaud comme ça.
Je vais annoncer un prono complètement faux. Je vous le dis déjà, il sera faux d'avance. Alexander Zverev va sortir de la partie de tableau.
Oh là là.
D'en bas.
Bah pourquoi tu dis ça?
Parce que j'ai envie de changer de... Voilà.
Zverev?
J'y crois, je sais pas pourquoi. Non, je déconne.
Autant dire Ratman. Bon.
Oui, c'est vrai, à la rigueur. Oui, autant dire Ratman. Non, t'as raison, je veux changer. Non, en vrai, t'es allé Hugo Humbert.
Oh,
Hugo Humbert, la grosse cote.
Ça veut dire que Sinner, il perdrait contre qui?
Non, mais attention, j'arrive. Hugo Humbert.
Ah, tu vois un abandon, toi.
Exactement, tu me vois venir. Le claquage contre Mikkelsen. Non, je déconne. Humbert Sinner en demi et Humbert tape Sinner. Voilà.
Oui. Oh là là.
Allez, hop. Humbert en finale de Miami. Et en haut, ce sera Lechka. Allez, hop. Liri Lechka, Humbert en finale de Miami.
Et tu mets ça sur BetClick, là, tu mets.
Ah bah là, je vous préviens, c'est.
Là, t'as ton SMIC.
Là, je vous dis, je peux aller à San Candido. Ah,
attention. Puis là, tu prends la semaine de forfait.
À 80 euros la journée. Là, on y va.
Ah, t'es étudiant encore.
Ah non, plus
maintenant.
Ah non, plus,
plus pour l'instant. J'adore ce suspense. Ce
eh oui, attention, rendez-vous l'année prochaine pour ça.
Rendez-vous dès septembre.
Donc Lechka, Humbert en finale.
Okay.
Et Humbert gagne Miami.
Ça, allez, hop, ça c'est couillu.
On y va. Voilà.
Voilà. Ça c'est couillu. Ça.
Et couillu. Voilà,
oh,
moi j'y vais.
J'adore. Oh, oui. Allez, un petit œil du côté des challengers, parce que Cherbourg s'est terminé.
Oui.
Avec une victoire russe, celle de Kotov.
Pavel Kotov.
Alors pour info, il n'y avait aucun Français en demi-finale. C'était pas une grande édition pour nos tricolores, Cherbourg, là, cette année. Au United States of America, entre les deux Masters 1000, on pouvait profiter de deux challengers 175 au plateau aussi relevé qu'un bon Silicon Carnet de Santiago. Alors à Phoenix, d'abord, victoire d'un jeune Américain qui monte. Qui monte. Ethan Quinn,
ouais.
Ouais, pas mal quand même, à suivre aussi. Hein.
Ah oui, oui.
Proche
du
top 50, Ethan Quinn.
Ouais.
Moutet a fait demi-finale.
Ouais, Coco en demi-finale, c'est
on dit quand même, c'était pas mal.
Pas mal.
Et du côté de Cap Cana, eh bien, c'est l'Argentin Navone. Je sais que tu l'aimes bien, Enzo. Navone,
et
qui
oui.
s'est imposé. Il a battu en finale l'Italien Bellucci, qui ne vient pas de San Candido.
Ah,
à noter la semaine dernière la finale d'Arthur Géa.
Oui.
À Zadar, en Croatie, qui a dû abandonner en tout début de match.
Oui,
On
imagine la blessure. Mais
Simon, t'as eu des infos sur la blessure d'Arthur Géa?
Pas beau à voir, donc je peux pas en parler.
Ok, ça marche, merci de l'info. Hot. Allez, c'est l'heure de passer à notre page Normandie. Et oui, et on va revenir sur le CNGT de Saint-Lô. Enzo, t'as suivi ça avec la plus grande des attentions.
Et oui, bah oui, on a suivi ce qui se passait dans le centre-manche sur ce tournoi long de 3 semaines quand même. Hein. C'est un tournoi qui s'étend avec plus de 400 joueurs encore pour cette édition. Et donc, ça s'est bouclé le week-end dernier, dimanche 22 mars. Il y avait les municipales, mais il y avait aussi les finales du CNGT de Saint-Lô,
évidemment,
plus intéressant.
évidemment, on n'a même pas besoin de faire de choix.
Bah évidemment, je ne vois pas pourquoi il fallait faire un choix. on avait, dans le dernier carré, une nouvelle fois cette année, Pauline Payet, la vainqueur de l'an dernier, qui n'a pas
pris sa retraite.
Comme Dimitri.
Oui,
évidemment.
Tu l'as, Simon, ou pas?
Non.
Ok.
Aïe. Oui, non, effectivement, les fans de l'OM sont en pleurs. Ouais, Dimitri Payet a annoncé sa retraite cette semaine. Mais là n'est pas mon sujet, puisque je parlais de Pauline Payet.
Ah, Pauline
Payet. Dimitri.
Ouais.
Pauline Payet qui n'a donc pas fait coup double, là, pour le coup, à Saint-Lô, puisqu'elle s'est inclinée en demi-finale contre la future gagnante du tournoi, Théo Gravouille, numéro 49 française, qui s'est imposée en finale contre Georgina Aïs, 6-4, 6-3. Bravo à Théo Gravouille pour son titre à Saint-Lô. Et chez les messieurs, par contre, on a un doublé, puisque le vainqueur de l'an dernier est le vainqueur de cette année, Antoine Cornu-Chauvin, numéro 34 français, qui s'est lui imposé en finale.
Non, j'aimais bien cette liaison-là.
C'est lui imposé.
Ouais,
avec le petit T entre les deux, là.
J'adore.
Parfaitement naturel. qui s'est lui imposé contre Paul Théat, licencié du SNUC Tennis Nantes, alors que notre ami Antoine Cornu-Chauvin vient bien sûr d'Annecy, évidemment, tout le monde le savait.
La montagne,
pas très loin de San Candido.
Pas si loin que ça.
Victoire 7-5-6-2 pour Cornu-Chauvin qui conserve son titre à Saint-Lô.
Voilà, et puis ça y est, on connaît le plateau du tournoi de Rouen.
Et oui.
Un tournoi qu'on suit bien évidemment chez Pleine Balle, prochaine édition dans à peine 3 semaines, ce sera du 13 au 19 avril.
Tout à fait, du 13 au 19 avril, le WTA 250 de Rouen, l'Open Cap Finance, Rouen Métropole, on est fidèle au naming évidemment.
Et oui, à la Kind Arena
évidemment. À Rouen donc, le plateau commence à s'éclaircir puisqu'on connaît le nom de 21 joueuses qui sont pour l'instant directement admises dans le tableau, je dis bien pour l'instant, puisqu'on dépend éventuellement de forfaits ou d'autres désistements. Je ne pense pas à Louise Boisson quand je dis ça. bien qu'elle soit dans le tableau. Première info, Loïs Boisson va peut-être faire son retour sur le circuit à Rouen. On l'espère, on touche du bois évidemment. Peut-être un retour en Normandie pour la numéro 1 française. Pour l'instant, la numéro 1 de ce tableau, ce serait Marta Kostiuk, l'Ukrainienne, 28e mondiale. On a du très beau monde dans ce tableau. On a notamment Baptiste, que tu ne connaissais pas.
Oui.
Eh ben oui, Baptiste, elle est là.
Elle est encore là, elle peut faire mal. Elle peut faire mal.
Elle est Baptiste qui est donc dans le tableau. On a également.
Elle peut faire mal. Oui.
Elle peut faire mal. On a également une ancienne gagnante de Grand Chelem,
Paola
Lénine. Et j'ai pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a Paola Badosa aussi.
Ouais, ouais.
Puisqu'elle était wildcard. Elle a été annoncée, c'est la première wildcard du tableau.
Paola Sophia Kenin.
Sophia Kenin, donc à Rouen.
Okay.
Paola Badosa aussi qui sera donc en tant que wildcard. Et donc pour aussi compléter le contingent français, Loïs Boisson sera accompagnée. Normalement peut-être, de Varvara Gracheva et d'Elsa Jacquemot. Voilà, donc les trois premières joueuses françaises au classement WTA seront de la partie
Au niveau français, tu veux dire.
Au niveau français, oui. Oui, évidemment, les trois premières françaises au classement WTA.
Ça serait beau, ça.
Voilà, pour l'instant, on a ce tableau-là. On a également d'autres jolis noms, comme Vondroušová, qui est aussi une ancienne gagnante de Grand Chelem. Là, ça, j'y pense en voyant son nom. On a également Cocciaretto, Jacqueline Christiane. Voilà, on a du très beau monde.
Ah, Jacqueline Christiane. Ah oui, à pas confondre avec Jacqueline et Christiane, qui jouent le double la semaine prochaine
à Cormel-le-Royal.
Ah oui, et à Cormel-le-Royal.
Intendante de Cormel-le-Royal, on les embrasse.
Voilà. Merci Emile, j'ai toujours le doigt sur le bouton pour envoyer les jingles. Impeccable. Allez, je me tourne vers notre Simon national.
Moi, je me tourne vers qui?
Bah, vers moi, okay. Ou vers Enzo, ou vers Emile, si tu veux. Simon, il est aussi à l'aise raquette en main que sur une planche au cœur d'un tube. Il peut aussi bien parler d'un breakpoint comme d'un point break.
Yeah!
Rapport au surf, hein, oui, pour ceux qui ne l'ont pas. Et il peut surtout nous proposer des amortis rétro.
3, 4. Foot.
Eh bien oui, nous continuons cette petite série sur le mental car nous sommes beaucoup à jouer des matchs, des vrais matchs avec des vrais points sur des vrais terrains avec de vraies raquettes. Mais contrairement aux professionnels, nous ne sommes pas en relation avec de vrais coachs mentaux. Mon coach mental quand j'étais minot, un minot qui regarde comme un malota. Ce coach, c'était mon père. Et mon père me disait souvent avant les matchs, tu sais mon fils, peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, je serai fier de toi. Et si des parents nous écoutent, sachez que ces paroles n'aident en rien un enfant à devenir professionnel. Personnellement, c'était un désastre, je n'ai jamais dépassé la quatrième série. Donc, si vous voulez que votre chiard soit pro, eh ben, faut lui gueuler dessus. Tsitsipas est la preuve que ça marche, même si au bout d'un moment, on finit par perdre son fils. Non, perdre contre fils, pardon. Enfin bref, tout ça pour dire que nous, joueurs amateurs, nous n'avons pas de coach mental. Et si vous souhaitez être fort mentalement et ne pas lâcher des doubles fautes en pleine balle de break, j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Car voilà, juste avant de commencer, je tiens à préciser que je suis ceinture noire de mental corps, ceinture noire également de self-control mental, et j'ai des très bonnes bases en tango argentin. Voilà.
Ouais,
d'ailleurs, je cherche un partenaire féminin ou masculin. Ou les deux, ou samedi.
Ah, bon, d'accord. D'accord. On va y réfléchir.
Autre précision, et après on y va. Je tiens à remercier celui qui m'a tout appris dans le mental, Hervé Bricrouge, dit la meringue. Sans lui, je serais rien. Et paix à son âme, il a mis fin à ses jours en 2022 après avoir essayé de coacher mentalement Benoît Paire. Hervé, on pense à toi. Allez, c'est parti. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est dans le mental, hein, évidemment, c'est la visualisation. Avant vos matchs, vous fermez les yeux et vous imaginez tous les scénarios possibles lors de celui-ci, à savoir les moments de tension, les moments d'euphorie, les moments de doute, et vous cherchez comment réussir à surmonter tous ces moments. Par exemple, vous vous imaginez en train de serrer le jeu lors d'une balle de break en votre défaveur, vous vous imaginez en train de serrer le jeu lors d'une balle de break en votre défaveur, vous vous imaginez en train de réussir une seconde balle parfaitement bombée lors d'une balle de 7, c'est trois exemples que je vous ai donnés. Iga Świątek, par exemple, lors de cet exercice de visualisation, essaye de s'imaginer elle-même en train de réaliser le revers parfait. Cet exercice de visualisation marche même dans la vie de tous les jours. Lorsque vous conduisez en voiture et qu'il y a un virage dangereux, n'hésitez pas à fermer les yeux pour essayer de parfaitement visualiser ce virage pour le prendre, évidemment, de ma meilleure des manières. Attention tout de même, un dimanche matin, je suis arrivé au clubhouse de Fourtout en heure à 8h, une heure avant le début de mon match pour faire des exercices de visualisation aux toilettes. Alors, dans le milieu du mental, on appelle ça « Toilet Previsualization Game Fast ». Le problème, c'est que la veille, j'étais sorti assez tard, voilà, en ayant assez bu. D'ailleurs, dans le milieu de la night, on appelle ça du BG Maxi Drinking without conscience of the consequence to the lendemain. Résultat des courses, je réouvre les yeux à midi et j'ai beau expliquer au juge arbitre qu'il me faut 4 heures de visualisation de revers avant chaque match, il n'a rien voulu entendre. WO. Donc voilà, doucement sur la visualisation, les yeux fermés, si les matchs sont tôt le matin, ça peut vous porter préjudice. Aussi, n'hésitez pas lors de cet exercice de visualisation à décrire vos coups, à leur donner des qualités. Par exemple, mon revers, j'aime dire qu'il est misanthrope et ponctuel. Voilà, je ferme les yeux et je dis à voix haute, revers, tu es misanthrope. Richard, si toi par exemple tu as du mal à décrire ton revers, je peux t'aider, car je l'ai vu, ton revers. Et pour moi, c'est un revers... Enfin, alors comment dire, pour moi, ton revers, c'est une parfaite représentation de la politique gouvernementale du gouvernement de Pierre Mendès France sous la 4ème République. Un revers avec une réelle envie de changement bloquée par des conspirations et des lobbies trop présents aux abords de l'hémicycle. Cette visualisation doit avoir lieu aussi durant tout le match. À chaque changement de côté, vous avez une petite minute et vous vous posez trois questions simples. Qu'est-ce que je dois continuer de faire ? Qu'est-ce que je dois améliorer dans mon jeu ? Ce cul sec depuis combien à 8h du matin pour me réveiller, était-ce la solution ? Alors je vous l'accorde, la dernière question est assez personnelle, mais que voulez-vous, chacun ses routines. Dernier conseil maintenant sur la visualisation, sachez que si votre adversaire pratique également la visualization lors des changements de côté, vous pouvez l'empêcher de pratiquer cela en le déstabilisant. Il y a plusieurs techniques, ma préférée, celle de mon coach Hervé Bricrouge, dit la meringue. Cette technique demande une certaine préparation mais elle est à 100% efficace. En gros, vous venez avec une enceinte et vous la mettez près du banc adverse. Et là, vous prenez un extrait de la voix de Didier Deschamps qui annonce sa liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe du Monde. Et grâce à l'IA, vous changez tous les noms et prénoms de footballeurs par les noms et prénoms de la famille de votre adversaire. Et là, je peux vous dire que le 31 qui entend que Didier Deschamps a convoqué son cousin, sa grand-mère et son beau-père pour jouer contre la Norvège, et ben ça déstabilise.
La Norvège.
La Norvège.
La Norvège.
Ouais, c'est l'accent local. Hein.
Bon, j'en ai fini avec la visualisation. De toute façon, moi, ma formation, elle est payante, donc je vais pas non plus tout dévoiler maintenant, ça serait dommage. Mais n'oubliez pas, tout de même, que le vrai vainqueur au tennis, c'est celui qui prend le plus de plaisir sur le terrain ou dans les vestiaires.
Oh, là, ah oui,
bravo,
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 ouais, bravo.
Bravo,
franchement,
bravo.
Là, on applaudit.
On prend tous des leçons, quoi, c'est
ah,
ça.
Là,
le
c'est
bien. Bah, j'ai hâte quand même d'avoir, d'avoir la prochaine session.
Ah oui, oui. Bon.
Ouais.
On va tous, là on va tous finir négatif avec ça.
Dans le négatif.
Dans le négatif aussi.
Il y a des chances.
C'est vrai que c'est cher ma formation.
Simon, il me semble que tu voulais nous faire jouer ce soir.
Oh, mais oui, c'est vrai.
Ah,
bah, attendez, je sors.
Pour terminer cette émission de la plus belle des manières.
La plus belle. Ah, j'avais un petit jeu. Ah bah ouais, bah attendez, moi tu m'as dit fais un jeu, j'ai fait un jeu.
Est-ce qu'on a un jingle, Emile ?
Un petit jingle quiz.
Allez, on y va.
Qui aura la question ?
Non, la réponse.
La réponse 2.
La question.
Mais j'ai pas.
La question ?
Non mais c'est eux ils ont la réponse. Enfin non, ils ont la question et nous on a... C'est, ça aurait été plus simple qu'on dise quiz.
Ouais, le quiz.
Quiz !
Bon alors Richard, comme la semaine dernière tu nous as fait un quiz spécial Indian Wells.
Oui.
Bah j'en ai fait un spécial Miami.
Oh là là.
Bah je suis pas allé chercher très loin.
Il nous surprend, il nous surprend.
Heureusement qu'on est assis hein.
Ah bah franchement ouais, bah j'entends de ma chaise, écoute.
Oh non, doucement.
Ah d'accord, pardon.
Souvenez-vous, on était resté un peu bouche bée quand Richard avait demandé où se situait le tournoi de Indian Wells.
Oui, comme ça.
Oui. Et bah moi du coup, il se situe où le tournoi de Miami ?
Ah je sais pas.
Indice, on l'a dit dans l'émission.
Ouais.
On l'a dit dans l'émission.
Et c'est pas Kukushkin.
San Candido.
Parce qu'on c'est l'a pas. Non les gars.
Non merde.
C'est pas Phoenix.
Tournoi de Miami. Non, Miami. Non.
Miami.
Fourtout sur heure.
Fourtout sur heure, t'imagines.
C'est pas Miami.
Si.
Oh, oh, wow, bravo.
Miami.
Ah ouais, bien vu.
Miami. Ah ouais, non mais, ok.
Dans quel état, en Amérique ?
Ça,
c'est une vraie question.
Ça, c'est facile, ça.
3615 Florida ?
Ouais,
c'est la Florida.
Florida.
Yeah.
Que veut dire ? Miami ? En Amérindien ? Oh, ça fait moins les marioles, là, hein ?
C'était un quiz tennis ou...
Souvent, il vaut mieux apprendre à connaître.
C'est vrai, mais tu as raison.
Et après, Miami, on peut parler tennis.
Je ne sais pas ce que ça peut vouloir
c'est
dire.
C'est hyper dur en vérité.
Ça vient de l'italien Mia, non, qui est à moi, je pense.
Ouais, hein. Ce que
comme on dit à Sainte-Candida.
Non, ça veut dire eau douce.
Eau douce.
Voilà.
Ah, super.
Ah, magnifique.
Mais tu connais ça, toi, l'eau douce?
Non, ah, j'aime pas, il n'y a pas de vague.
C'est pas de vague.
On va pas dans les lacs, nous. Dans la vraie mer, celle qui est salée. Première ville hispanique des États-Unis.
Ok.
Premier port de croisière. C'est où il y a le plus de bateaux de croisière.
Ok.
Pour nos auditeurs, on sait pas là si Simon il est en train d'improviser ou si c'est vraiment prévu dans son jeu.
Allez, on rentre dans les couloirs du tournoi, passons devant la salle des vainqueurs. Et là, une question me vient. Quelle est la joueuse la plus titrée à Miami?
La plus titrée, la joueuse à Miami. Ça date d'il y a longtemps ou pas?
Non, non, pas
c'est récent.
Bah, ouais. T'étais tout jeune. Enfin, non, t'étais pas tout jeune, justement. T'es...
Serena?
Moyen. Oui.
Ouais, c'est
allez, Serena simplement. Williams.
Combien de titres?
6.
Ouais, genre.
Un peu plus.
8.
Oh. 8, effectivement.
Oh là là.
En 2002, 2003, 2004, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014 et 2015.
Ouais. Oh ouais.
Et sachez qu'aucune Française ne s'est imposée dans ce tournoi en simple. Et en double, aucune Française ne s'est imposée non plus. Il faut remonter à 2009 pour voir une Française en finale. C'était ouais. Amélie Mauresmo.
Amélie Mauresmo.
Oh, celle-là, dis donc. Fallait la voir.
Ouais, fallait le trouver.
Chez les hommes, c'est qui a gagné le plus de titres? Attention, il y en a deux. Il y en a deux. Ils sont égalité du coup.
Est-ce que Djoko est dans la liste?
Oui.
Ouais.
Qui d'autre? Simon, il y a Djokovic qui s'est imposé.
J'ai peut-être une idée sur l'autre, mais.
Vas-y, vas-y.
Maintenant, vas-y, Richie.
Ouais, pas Roger.
Non, pas Roger.
Ah,
bah,
j'aurais dit Roger.
Pas Roger. André Agassi?
André Agassi.
Bravo.
Allez, vous êtes super bon.
Allez, André Agassi.
Bon, est-ce que je vous dis les dates? Non, ça sert à rien. Et d'ailleurs, André Agassi a également le record de finale.
Ouais.
Avec 8 finales.
Ok. 8
finales.
Donc, c'est celui qui a été le plus en finale de ce tournoi.
C'est le principe d'un record.
Arrêtez de vous moquer.
Non, non, bah non,
c'est ma première fois à faire le jeu.
Vrai, mais il fait vachement bien pour
l'instant. Il est trop fort.
Quant aux Français, personne ne l'a gagné ce petit tournoi de Miami. Peut-être cette année. En tout cas, le seul Français à être allé en finale, qui c'est? 99.
Oh, en 99, allez, gros Jean.
Ouais,
oui.
Ouais, gros Jean.
Allez, le petit Seb.
Seb.
C'est Bounet.
Bon, on reprend en 2004. Année, pas de ta naissance, Enzo.
Non.
Il s'est passé quelque chose de spécial, mais quoi?
En 2004.
Oui, en 2004. Est-ce que c'était le premier Master 1000 remporté par la paire iconique des frères Bryan? Est-ce que c'était Tsonga qui remporte grâce à une wildcard et un WO son premier match en Master 1000? Est-ce que c'est la première fois que Rafael Nadal, 17 ans, bat Roger Federer?
Non, je dirais...
2004.
Les frères Bryan.
Non, c'est Bryan.
Les frères Bryan.
Les frères Bryan.
Ouais.
Non, la team. Eh non. C'est une victoire de Nadal, 17
en
ans.
En 2004
2004, ah ouais
2004,
ouais. Ok.
2004, c'est fou.
Il a battu Federer à 17 ans.
Il a battu à 17 ans Federer, 6-3, 6-3. Et ce qui est fou, c'est que l'année d'après, ils se sont rejoués au même tournoi, en finale. Rafael Nadal gagnait 2-7 à 0, et c'est finalement Federer qui s'est imposé en 2005.
Je me rappelais depuis qu'en 2004, c'était avant Roland Garros.
Bah oui, moi aussi, je pensais pas.
Et bah d'accord.
Autre première fois, cette fois-ci technologique, une invention faite ces 10 ans cette année. Et la question est, quelle est technologie aujourd'hui présente partout, est arrivée en 2006 pour la première fois au tournoi de Miami?
2016 du coup, 2006.
Ils fêtent leurs 20 ans, effectivement.
Ah d'accord,
pardon.
Partout dans le monde du tennis, c'est ça?
Maintenant, il y en a partout.
Partout, vraiment
partout.
Même ailleurs que dans le tennis, parce que partout c'est...
En 2006
il y en a partout dans le monde du tennis.
Ok, d'accord. Ah non, mais ça, peut être, ça aurait pu être une invention qui a...
Oui, c'est vrai.
Qui s'est détaché.
C'est pas le Hokkaï.
Non, ah, quoi qu'il en soit, 2006.
C'est dommage.
Si, c'est ça.
C'est le Hokkaï en 2006.
2006, et on attend. Ouf, oui.
Ok, incroyable. On apprend plein de trucs dans
on
ce
apprend
quiz.
Plein de trucs, ouais, effectivement.
Ouais. Première fois qu'il y a une utilisation du Hokkaï, tout à Miami. En 2006.
Okay. Est-ce que c'était déjà aussi nul?
Comment ça?
Bon, est-ce que ça se foirait déjà autant?
Bah, ça devait se foirer encore plus.
Ouais, encore plus, ouais.
Ça va être un petit peu limite. Aujourd'hui, combien de spectateurs viennent profiter du tennis à Miami? J'attends une fourchette. Attention.
Mais quoi, par jour sur le tournoi?
Sur le tournoi.
Sur
et
tout
pour
le tournoi
vous aider, ouais, enfin, l'affluence à Roland-Garros sur tout le tournoi, c'est 685 000 personnes.
650 000.
Donc pour Miami, on serait sur du combien? Allez, dites-moi.
Après, c'est quand même grand Miami.
Bah, je dirais un peu moins.
Ouais.
Non
oh, beaucoup moins, genre, quand même, je dirais.
C'est une fourchette que j'attends. Parce que un peu moins, excuse-moi, Richard, ça va pas me suffire.
Allez, 300 000.
Ouais, je dirais 400 000.
C'est moins 000. Que ça, ouais.
300 000, 400 000
300, ouais. 300, mais c'est moins.
Bien vu, Morici.
Ah ouais
405 000
ouais,
l'année dernière.
Tu les as comptés l'année dernière, c'est
d'accord.
Ouais, mais il y en a un peu moins cette année, c'est pour ça.
Ouais.
Ah oui,
ouais.
T'as compté, c'était moins.
Ouais, mais 5 000 en moins, j'ai compté 5 000 en moins.
5 000 en moins.
Ouais, à peu près, ouais.
Dernière question, et après on en aura fini. Comment s'autoproclame le tournoi de Miami? Est-ce que c'est le plus beau tournoi des US? Le tournoi le plus accueillant? Ou le 5e Grand Chelem?
Non, 5e Grand Chelem, c'est Indian.
Ou alors,
ouais, ou alors c'est une guéguerre à deux balles. Mais...
C'est la guéguerre, mais je crois pas, non. Plus beau tournoi ou quoi t'as dit après?
Plus accueillant.
Oh, c'est très Floride ça.
Ouais, je dirais ça. Moi, plus accueillant. Plus accueillant.
C'est le cinquième.
Mais non.
Si, le cinquième grand chelem.
Bon, ils sont deux à dire ça, les gars.
Ah, il faut se mettre d'accord.
Oui, mais c'est, ils sont en guéguerre avec Indian Wells.
Bah, ouais, la guéguerre de balle.
Okay.
Et James Blake, le directeur du tournoi, a dit mais non, on s'aime bien avec Indian Wells, y a pas de souci, mais oui, on est le cinquième. C'est une petite guéguerre, voilà.
D'accord.
Eh ben merci, merci Simon, ouais. On apprend toujours des trucs.
Génial.
Sur ces quiz. Ouais,
j'ai
kiffé. J'ai kiffé vraiment.
Franchement,
trop mignon les
semaines.
Petits loulous.
Ouais, toutes les semaines. Ouais, entre sa spécialité mentale et le quiz, là, c'est superbe.
C'est magnifique.
J'ai plus de raquettes, j'ai tout crassé.
Allez, super, messieurs, dames, Marine n'est pas là toujours.
Mais on l'embrasse quand
on
même.
On l'embrasse quand même, messieurs.
Elle sera avec nous dans.
On embrasse Emile aussi.
Évidemment.
Toujours à la perfection derrière sa petite vitre. On se retrouve dans 15 jours pour le début de la saison sur Terre battue, nous.
Oui,
le tournoi de Houston, de Bucarest ou encore le Grand Prix
Hassan II.
Et puis un petit peu Monte Carlo aussi, quand même.
Un poil.
Voilà, premier grand rendez-vous sur Ocre.
Tout
bon week-end, tout le monde.
Bon week-end.
Salut, Loulou. À dans 15 jours.
Et bonne soirée. Et vive le tennis.